Bien, ce soir, pour donner suite à ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines maintenant, j'aimerais tout d'abord que vous preniez vos Bibles avec moi et nous allons regarder ensemble dans le psaume 25e. La dernière fois que nous avons passé par cette série, il y a environ 5 ans, si je ne me trompe pas, puis après arriver aux États-Unis, la balance des choses, je les ai mis toutes ensemble et j'ai donné des expériences sous un seul titre qui pourrait se résumer dans les chapitres dans les psaumes 25e. Vous savez que notre frère pour qui nous prions, M. Robichon, a entrepris de mettre sur papier dans un livre ce dont je vous ai parlé dans les 6 dernières sections. Depuis plusieurs mois, pendant qu'il était au travail, il m'a donné un devoir. Et ce devoir, c'est de compléter ce qui s'est passé depuis les derniers 25 ans. Alors, je n'ai pas l'intention de vous donner ça en détail, parce que ça pourrait prendre 25 ans. Mais j'aimerais quand même prendre un peu plus de, suite, de vous donner ça un peu plus de manière chronologique que dans les autres fois. Alors, néanmoins, s'il y a certains hauts points sur lesquels j'aimerais insister, c'est peut-être 2 choses. Ce que notre frère Claude a dit, la fidélité de Dieu, j'en peux pas dire suffisamment. Parce que, à mon égard, aussi bien qu'à l'égard de chacun de vous qui est ici, sans la fidélité, sans la grâce de Dieu, personne ne serait ici. Nous étions tous en train de rôtir à l'enfer, si ce n'était pas pour la grâce et la fidélité de Dieu. Mais les 2 choses que je puisse dire, à part de la grâce et la fidélité de Dieu, et ce que j'aimerais souligner, c'est tout d'abord la bonté de Dieu à la manière que le Seigneur Jésus répond aux prières de ses enfants. La deuxième chose, la manière que le Seigneur Jésus conduit ses enfants. Depuis ma conversion, ça a été vraiment si je puisse dire, un point dans ma vie, de laisser le Seigneur Jésus avoir les contrôles. Je lui donnais tout, j'ai cédé ma volonté à la sienne. Et ensuite, alors, nous avons vu comment ça manifeste à travers des années. Et il y a quelques semaines, nous avons parlé comment je suis allé aux États-Unis, comment le Seigneur a répondu en me donnant un billet. Ça, c'est peut-être un haut point. Et à cause de ça, quelquefois, on a tendance de ne pas regarder la réponse de Dieu dans les choses qui sont plus petites que ça. Sinon que, par exemple, comment le Seigneur répond par une paire de souliers. N'est-ce pas? Mais la dernière fois, il y a 15 jours, je vous ai dit comment le Seigneur a répondu à une autre de mes prières. Et quelques personnes ont interprété ça que j'ai trouvé une femme dans les catalogues. J'aimerais écarter une fois pour toutes cette idée que j'ai trouvé mon épouse dans un catalogue. C'est pas vrai. Ça peut vous donner cette impression si vous mettez à côté ce dont je viens vous parler. Si vous écartez de vos pensées les faits que j'ai insisté et j'ai demandé et je m'ai confié au Seigneur de me conduire et je savais que le Seigneur Jésus n'allait pas faire une erreur. Si vous voulez, je vais vous donner encore quelque chose de pire, ou plus que ça que j'ai eu. Je connais des frères qui ont rencontré des les femmes qu'il savait qu'il allait marier sans les avoir jamais vues. Ça vous va? C'est pas mon cas. Mais j'en ai des amis. Et avant d'avoir parlé à une jeune fille, je savais que ça va être que ça allait leur épouse. Ça veut dire quoi? Intuition? Non. La direction de Dieu. Et peut-être à ce moment-là, je dois insister sur un fait. Peut-être que vous allez me dire, moi je ne connais pas ça. Mais c'est bien dommage. Parce que vous pouvez connaître. Parce que chaque enfant de Dieu doit vivre dans la communion avec le Seigneur d'une telle manière que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire fausse route. Parce que si vous vous donnez à Jésus-Christ et si vous vous demandez, Seigneur, prends ma main, conduis-moi, vous pouvez être sûr qu'il est fidèle de le faire. Avez-vous déjà pris Dieu dans mensonge? Parce qu'il n'a jamais menti. Dieu ne peut pas mentir. Là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous prenions le psaume 25. Vous connaissez psaume 32, verset 8, c'est ça? Vous le citez, l'avez-vous appris par cœur, psaume 32, verset 8? Non, ce n'est pas psaume 32 que je vous demande de prendre. Psaume 25, verset 4. Je l'ai déjà partagé à plusieurs personnes. Mais regardez bien, il dit ici, c'est David qui prie et il demande, c'est une requête quadruple. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Je vais voir, je vais savoir les chemins. Fais-moi connaître tes voies. Deuxième requête, il dit, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Ça, c'était la prière, les cris du cœur de David. Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. Puis après, il ajoute, tu es le Dieu de mon salut. Tu ne m'as pas me laisser. Parce que tu es mon Dieu, parce que tu m'as sauvé. Et parce que je mets en toi mon espérance. Seigneur, fais-moi connaître, montre-moi, enseigne-moi. Conduis-moi, instruis-moi. Ça, c'était la prière de David. Je lisais ce psaume, j'arrivais au verset 12e, et je me suis dit, tiens, tiens, voilà la réponse. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Au verset 12e, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Point d'interrogation. Ça veut dire quoi de craindre l'Éternel? Il dit, quel est l'homme qui honore, qui respecte, qui met Dieu à première place dans sa vie? Qui est l'homme qui craint l'Éternel et fait de l'Éternel son maître? Qu'est-ce qui arrive si on craint l'Éternel, si on le met à la première place sur le trône de nos vies? Qu'est-ce qui arrive? Il dit ceci, l'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Non seulement ça, il dit, son âme reposera, il va avoir la paix. Dans le bonheur, il va avoir la joie. Et sa postérité possédera le pays. Il n'aura même pas besoin de déménager. Oui. Alors, la prière et la promesse. Alors, quand il s'agissait, je peux vous dire honnêtement, je vous ai dit d'abord que j'avais pris une résolution de ne pas avoir des fréquentations pendant que j'étais à l'école. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas demandé constamment au Seigneur de me donner celle qu'il avait choisie, qu'il avait préparée pour moi, au temps convenable. Et je peux dire, quand j'ai rencontré mon épouse, ça n'a pas pris du temps. Et heureusement que l'école était finie. Au moins pour ma part, j'ai tombé amoureux. Entre parenthèses, je voulais que ma femme puisse vous partager un peu ce qu'elle a vécu. Et moi, je peux parler juste pour moi, je ne peux pas parler pour elle. Alors, voici une partie de ce que j'ai vécu. Je peux vous dire, quelqu'un pendant la conférence des couples, il y avait des personnes qui nous ont posé toutes sortes de questions. Puis quelqu'un m'a dit, eh bien, après, pendant la conférence des couples, M. Gazdi, ce sera vraiment bon que vous puissiez dire quelque chose une fois ce que M. et Mme Alexanian nous ont dit. Mais je ne peux pas vous dire ce que Mme Alexanian vous a dit ou ce que M. Alexanian vous a dit. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas M. Alexanian. Mon nom est Gazdik. Et il ne faut pas que vous me preniez pour quelqu'un d'autre. Les expériences que M. Alexanian avait ou que son épouse avait ne sont pas les mêmes que nous avons. J'aimerais dire, par exemple, qu'à travers des années, ça fait... Combien de temps qu'on est marié? Je sais. Nous avons célébré notre 35e anniversaire le 29 septembre. C'est facile parce que nous étions mariés en 1950. C'est facile de se rappeler. Il faut juste vivre les années. Alors, si vous avez des problèmes avec les dates, voici un conseil. Attendez à 1990. Et après, vous allez pouvoir compter facilement vos années. Non, c'est une blague que je vous dis. Je peux dire qu'à partir à travers les 35 ans, c'est vrai que dans n'importe quel couple, quel foyer, il va avoir des hauts et des bas. Il va avoir même. Mais il y avait un des conseils, ou plutôt un proverbe, que nous avons pris pour les nôtres. C'est un proverbe en slovaque. Et nous avons tâché constamment d'observer ces proverbes, ce qui nous a beaucoup aidé à travers les années. En slovaque, chez nous, on dit Čo sa doma j'ai oublié le reste. Ça veut dire en français ce qui se cuit à la maison, ce qui se cuit à la maison doit se manger à la maison. C'est un proverbe slovaque. Ce qui se cuit chez nous, se mange chez nous. Ça veut dire tout simplement, si vous avez des difficultés dans votre foyer, ne partez pas chez la belle-maman ou chez vos parents ou chez vos voisins ou chez vos amis avec ça. Parce que ça va être 10 fois plus difficile de revenir en arrière et de tout refaire les schémas par où vous êtes passé. Comprenez-vous, mesdames? Messieurs? C'est vrai? Là, quand finalement vous vous réconciliez l'un avec l'autre, puis là, puis vous grattez la tête, à qui je l'ai dit? Comment vous allez tout retirer les paroles que vous avez dites partout? Alors ça, c'était une de nos devises. Mais c'est vrai, nous avons passé par des hauts, quelquefois par des bas. Difficile, mais je peux dire une chose. Je vais vous parler aujourd'hui avec l'expérience des 35 ans. Nous avons parlé aujourd'hui, ma femme et moi, sans avoir pensé à la réunion de ce soir. Et après 35 ans, tous nos enfants sont partis. 6 enfants. Qui ont quitté la maison, qui ont passé par notre foyer, et maintenant sont à gauche, à droite. Je dis quelquefois que quand on tout d'un coup, la maison est grande, quand des vitres, on tombe à